FM, connecté à votre région.
Rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans l'émission Les rendez-vous de l'économie du territoire. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Jérôme Rotter. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Vous êtes le dirigeant d'Home Concept Habitat à Cosne-sur-Loire.
Tout à fait.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui.
C'est avec plaisir.
Alors, je vais vous demander de nous présenter justement votre structure qui existe depuis maintenant un peu plus de 2 ans.
C'est ça.
Je vous écoute.
Donc, Home Concept Habitat, je me suis installé donc il y a un petit peu plus de 2 ans en tant que maître d'œuvre. Et je suis invité à cette émission pour vous faire partager la fonction réelle d'un maître d'œuvre, puisque très, très peu de personnes connaissent réellement la fonction de ce métier. Donc, je vais commencer par mon parcours. Mmh. Où j'ai 23 ans de métier dans la maison individuelle. J'ai travaillé chez différents constructeurs, notamment Pavillon Bain à l'époque, qui était un constructeur très très reconnu. Et j'ai pu faire mes armes en tant que chef d'agence, évoluer, faire des formations aussi bien commerciales et techniques du bâtiment. Ce qui m'a permis d'avoir cette expérience aujourd'hui.
D'accord. Donc vous avez une expérience qu'aujourd'hui vous mettez à disposition donc de vos clients dans le cadre de votre activité en tant que maître d'œuvre. Alors j'aimerais que dans un premier temps vous m'expliquiez un petit peu quels sont vos clients. Ce sont plutôt des particuliers, des professionnels ?
Oui, c'est principalement des particuliers, tranche d'âge entre 30 et 50 ans.
D'accord.
Où moi je me suis vraiment spécialisé dans le domaine de la maison individuelle et de l'extension, puisque chaque maître d'œuvre peut avoir une spécificité dans un domaine.
Oui.
Et moi, je n'ai pas voulu m'occuper de tout ce qui est partie rénovation énergétique, puisque ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de temps, puisque je suis tout seul dans mon entreprise. Et avec l'expérience que j'ai connue dans le métier, je dirais, du bâtiment tout corps d'État, j'ai préféré m'axer vraiment auprès des particuliers, en tant que conseiller, faire des projets sur mesure pour que le client puisse avoir, je dirais, un lieu de vie qui lui correspond.
D'accord. Alors du coup, ça m'amène à... Je vais vous demander, du coup, comme vous nous l'avez promis tout à l'heure, de nous expliquer en quoi consiste précisément le métier de maître d'œuvre.
Donc le métier de maître d'œuvre est un métier en tant qu'intermédiaire. Il est missionné, si vous voulez, par le client. Donc,
oui.
Le client choisit son maître d'œuvre pour son projet de construction. Et le maître d'œuvre, lui, a une qualité de transparence et de suivi et coordination de travaux.
Donc, d'accord.
C'est-à-dire que le maître d'œuvre va proposer des entreprises au client,
mm-hmm.
qui, lui, après, va avoir le choix des artisans.
C'est le client qui choisit ses artisans.
Tout d'accord. Hein, puisqu'on est obligé de lui proposer plusieurs devis par corps d'État pour la construction de son projet. Donc ça, c'est un gros point fort. Et ce qui lui permet aussi d'avoir un devis par corps d'État.
D'accord.
Donc le client sait exactement combien lui coûte sa maison en terrassement, maçonnerie, charpente, couverture, jusqu'à la livraison.
D'accord, on n'est pas sur un tarif clé en main, c'est ça ?
Exactement.
D'accord.
Donc ce qui est bien, c'est que si le client souhaite réserver des travaux à sa charge, mm-hmm. il peut tout à fait le faire.
Oui, c'est ce qui arrive souvent sur le second œuvre, en fait, les embellissements, les peintures et tout ça.
Exactement. Même s'il se sent capable, je dirais, de faire son carrelage, il a un frère qui a une entreprise mm-hmm. qui est carreleur, il a tout à fait la possibilité de choisir son frère en tant que carreleur.
D'accord. Donc, liberté du choix des artisans, transparence sur le coût de chaque poste, finalement, et possibilité aussi de dire, bah là, j'ai quelqu'un de ma famille qui sait faire, donc... sur cette prestation, je n'ai pas besoin d'un artisan, on le fera.
Exactement,
okay.
C'est exactement ça.
Donc ça, c'est
moi,
plus clair.
Et moi, ma mission, si vous voulez, c'est une mission de maîtrise d'œuvre en rémunération se situe entre 10 et 15%, alors qu'un maître d'œuvre, vu qu'il prend la globalité des travaux, un constructeur de maison individuelle, pardon, vu qu'il prend la totalité des travaux, lui, va être sur une marge brute entre 25 et 30%.
D'accord, donc a priori, un gain quand même pour le client au final.
Tout à fait.
D'accord.
Puisque construire avec un mètre d'eau aujourd'hui représente un coût moyen aux alentours de 1500 euros le mètre carré, habitable, alors qu'un constructeur en est plus aux alentours de 1800 à 2000 euros.
D'accord. Donc, autre avantage, effectivement, après ceux que l'on avait évoqués tout à l'heure.
Tout à fait.
Parfait. Vous nous parliez effectivement de clients particuliers. Comment se font les mises en relation? Comment les clients peuvent venir vers vous?
C'est beaucoup de bouche-oreille
oui.
aujourd'hui, hein, beaucoup de recommandations. C'est principalement l'activité de mon métier, puisque les gens sont contents. Après, ils mettent j'ai des avis sur certains réseaux sociaux, ce qui me permet aussi d'avoir d'autres clients.
D'accord.
Et depuis 23 ans, je suis quand même assez connu sur la place.
Vous êtes connu sur la place. Donc, les clients peuvent vous trouver facilement. Un projet de construction, en fait, en moyenne, c'est quel délai? Le temps que tout se mette en place et qu'on emménage?
Aujourd'hui, il faut compter à peu près 10 mois.
10 mois?
En respectant tous les délais de séchage.
Oui.
Et en plus de l'administratif, le temps d'avoir le permis de construire, toutes les autorisations, puisque ça met à peu près entre 4 et 5 mois.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire. On est 10 mois, c'est la partie de travaux purs.
Oui.
On est d'accord.
Dans sa globalité, il faut compter à peu près une quinzaine de mois.
D'accord. Ok. Ce qui est correct sur un projet de construction, on va dire.
Oui, tout à fait.
Et au niveau, donc, vous nous avez expliqué, vous travaillez tout seul. Quels sont les concurrents que vous avez face à vous sur ce marché-là? Ils sont nombreux ou c'est des façons de travailler différentes? Qu'est-ce qui se passe sur le marché?
C'est principalement des constructeurs des maisons individuelles.
D'accord. Donc une autre façon, une autre approche?
Exactement, puisque dans ma spécificité, je dois être le seul maître d'œuvre de la Nièvre à vraiment avoir une spécificité, dans le domaine de la construction de maisons individuelles et d'extension.
D'accord. Ok. Vous intervenez sur toute la Nièvre ou sur une partie seulement ou sur des départements limitrophes ou partout en France?
Alors,
pourquoi pas
tout. Je
dis ça pour nos auditeurs de Moulins, en fait, qui pourraient avoir aussi envie de travailler avec vous.
Non, pas toute la Nièvre, puisque moi je gère entre 6 et 8 projets par an.
Oui. Hein,
c'est voulu, puisque je tenais à me concentrer pleinement sur mon activité et avoir un très bon suivi et coordination de travaux, puisque ça c'est important.
Je vous confirme.
Sur 17 corps d'État, c'est beaucoup de travail, beaucoup de comptes rendus pour les clients. Je vais être à 20 km autour de Nevers.
D'accord.
Et à peu près 15-30 km autour de Cône.
D'accord. Ce qui est important pour vous, c'est suivre le chantier, d'y être.
Tout à fait.
Sur quelle fréquence?
Une fois par semaine.
Au moins une fois par semaine?
Oui,
parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chantier qui se retrouve à l'arrêt pour le client.
Ah oui. Oui, oui.
Qu'est-ce qui fait qu'un chantier se retrouve à l'arrêt, par exemple?
Manque d'informations, manque de planning.
Oui, donc la coordination, finalement.
Exactement, c'est purement la coordination. L'avantage, c'est que moi, tous les artisans ont un planning 6 mois avant la construction.
Oui.
Pour certains corps d'État, pour tout ce qui est seconde œuvre.
Mm-hmm.
Donc ça leur permet aussi de bien planifier leurs travaux, de commander les matériaux et de ne pas être en retard sur la construction.
Oui, parce qu'on a connu quand même pas mal de chantiers, que ce soit de la rénovation, que ce soit de la construction, hein, pour lesquels les artisans étaient en peine dans leur intervention parce que les matériaux n'arrivaient pas. C'est toujours d'actualité, ça, ou
non,
quand même moins?
Moins. Je dirais le facteur, c'est au niveau de la tuile. Effectivement,
et
au niveau
tuiles.
Des tuiles,
c'est toujours compliqué.
C'est très compliqué. Mais je dirais, dans la maison individuelle, on est souvent sur ce qu'on appelle la tuile HP10 ton ardoise, qui est assez moderne. Donc là-dessus, il n'y a pas spécialement de pénurie. Après, il y a beaucoup de pénurie sur les petites tuiles en rénovation, où là, il faut plus d'un an pour avoir la tuile.
Oui, j'ai cru comprendre que ça devenait compliqué sur. Enfin, c'est compliqué depuis 2 ans déjà, quasiment. Et beaucoup depuis un an.
Un bon 2 ans.
C'est ça, hein. Bien. Je vous propose que nous marquions une pause musicale avant de nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter?
Écoutez, j'ai choisi une chanson que j'aime beaucoup, qui me rappelle aussi ma jeunesse. Donc c'est Mathieu Chédid de Mama Sam.
Eh bien parfait, on se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous de l'économie du territoire, retour dans un instant. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes toujours avec Jérôme Rotter pour ce rendez-vous de l'économie du territoire. Et nous avons abordé, Jérôme, dans votre activité donc, au sein de Home Concept Habitat, dans cette première partie d'émission. J'aimerais aujourd'hui que l'on avance aussi sur la conjoncture actuelle et l'incidence qu'elle a sur la construction en général, mais aussi sur votre activité. Entre inflation, pénurie, on en a un petit peu parlé tout à l'heure pour les tuiles, hausse des taux d'intérêt, comment ça se passe exactement ?
Alors c'est très, effectivement c'est une conjoncture qui est très très difficile, hein. Après il n'y a pas que l'inflation des matériaux, hein, c'est l'inflation aussi je dirais des achats courants, hein. quand on fait nos courses, hein, donc s'adapter, on a essayé de trouver des solutions, non pas renier je dirais sur les matériaux, mais de faire des projets on va dire un petit peu plus compacts, qu'on pouvait faire avant, puisqu'on a été soumis aussi à la nouvelle réglementation RE 2020.
Oui.
Où avant on était en RT 2012, donc depuis deux ans on est avec cette nouvelle réglementation, où il il faut savoir qu'une maison individuelle aujourd'hui doit consommer moins de 12 kWh au mètre carré par an. Ce qui représente pour 100 mètres carrés environ 350 euros de chauffage.
D'accord.
Donc c'est vrai que l'augmentation due à l'inflation et des matériaux, on arrive à le combler un petit peu aussi par rapport aux gains énergétiques que les clients peuvent avoir au quotidien.
Ok.
Donc ça, c'est déjà une première chose. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en l'espace de 2 ans, avec l'augmentation des matériaux, les maisons ont pris environ entre 15 et 20 000 euros. Et les taux ont triplé, donc effectivement, ça ne nous a pas aidé, dans le domaine d'activité, puisqu'en moyenne, une maison de 120 mètres carrés habitable, ça a pris entre 60 et 70 000 euros.
Oui, pour le même bien en 2 ans.
Tout à fait.
Donc forcément, ça a des incidences à la fois, je suppose, en nombre de chantiers qui se mettent en route.
Exactement.
Mais aussi, ça change la typologie peut-être de clients.
Oui, parce que avant, on avait une tranche d'âge entre 25 et 35 que l'on a difficilement aujourd'hui, puisque aujourd'hui, les banques demandent 10% d'apport au minimum pour leur projet. Donc sur un bien à 150 000 euros.
Il faut le temps de constituer l'apport.
Il faut arriver à trouver des clients qui ont 15 000 euros.
Il faut le temps de constituer l'apport quand
exactement.
On est très jeune.
Exactement, donc c'est vrai qu'on a perdu toute cette tranche d'âge.
Oui.
Où maintenant, on est plus sur du 35-50 qui refont un bien, qui sont déjà propriétaires, qui ont déjà un capital de l'apport. Et c'est pour ça qu'on arrive quand même à pallier un petit peu ce manque de clients.
C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que si je comprends bien, en fait, ce sont plutôt les primo-accédants à la propriété.
Exactement.
Qui sont pénalisés par cette conjoncture.
Les jeunes.
Les jeunes, oui. Donc, donc on retarde dans on âge la possibilité d'accéder à la propriété.
C'est ça.
Ce qui ne sera pas neutre sur le long terme, je pense.
Oui, puisque si à 35, on emprunte sur 25...
Oui, on finit un peu plus tard.
On finit quand même un peu plus tard.
Oui, il y a ça. Et ça veut dire aussi que souvent, en fait, dans la stratégie des personnes, on achète sa maison et ensuite on achète un autre bien, soit en résidence secondaire, soit pour louer, pour avoir des revenus complémentaires.
C'est ça.
Ça veut dire qu'on retarde aussi ses projets, finalement, par effet de domino.
Ah, c'est exactement ça. Pardon, c'est tous les projets, les investissements. Se créer un patrimoine où aujourd'hui c'est très très difficile puisqu'on est là pour subvenir aux besoins de nos enfants comme tous et
c'est mieux,
quand
oui.
On a les moyens de le faire, bah, on essaye de les protéger un maximum en réalisant des investissements et ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui ces investissements ont été pratiquement divisés par deux.
Oui.
Alors aussi bien en résidence principale que des projets en défiscalisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui sont à la peine financièrement, puisque les dernières stats sur le dernier semestre 2022, on était à moins 32% au niveau national de mise en chantier, et là, premier semestre 2023, moins 60%.
Quand même, oui. Comment vous voyez les mois à venir ? Est-ce qu'on va vers une stabilisation ou est-ce que c'est quelque chose qui va encore perdurer ? C'est une situation qui va perdurer ?
Je pense que cette situation va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Après, il y a différents organismes du bâtiment, notamment la Fédération française du bâtiment, qui n'arrête pas de donner des alertes à l'État par rapport à la conjoncture actuelle, puisque il va y avoir quand même du monde sur le carreau.
C'est-à-dire que les entreprises tiennent un temps, mais si on est sur des tendances comme celle-ci pendant une longue durée, forcément, ça va avoir des incidences sur l'activité, sur les emplois.
Tout à fait. Donc il y aura énormément de demandeurs d'emploi, donc c'est pour ça qu'on n'arrête pas de donner des alertes au niveau de la Fédération française du bâtiment. Et la difficulté aujourd'hui dans le neuf, c'est qu'on est avec une TVA à 20%, alors qu'en réno, on est plutôt sur une TVA à 10%. Donc pour vous donner un comparatif, sur une maison aux alentours de entre 150 et 200 000 euros, on donne entre 35 et 40 000 euros de TVA.
Oui, donc il y a des écarts qui sont quand même pas négligeables.
Tout à fait.
Donc je suppose qu'il y a des appels qui sont faits à l'État pour peut-être prendre des mesures et inciter les gens à continuer à construire avec des points qui permettent d'améliorer le surcoût, finalement, de le diminuer.
Exactement, c'est pour ça qu'on espère réellement avoir un accompagnement, en tout cas de l'État, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette nouvelle réglementation thermique, où les maisons ont pris entre 5 et 10% quand même, les maisons sont mieux isolées, elles sont mieux pensées, aussi, oui. Puisque aujourd'hui, la meilleure exposition pour une maison, c'est sud-sud-est, de façon à avoir un apport énergétique dû à l'ensoleillement qui aujourd'hui est gratuit.
Mm-hmm. Pour l'instant,
pour
oui.
L'instant. Donc c'est vrai, quand on a une maison bien pensée, forcément la maison consomme moins.
Oui.
Donc on arrive à pallier, si vous voulez, certaines dépenses.
Oui, mais alors effectivement, le surcoût de ce type de maison de 5 à 10%, avec des économies ensuite sur la consommation énergétique, on rentre dans ses frais finalement, donc c'est pas mal.
Oui.
Mais avec l'inflation en plus, on se retrouve dans des situations où finalement, on ne rentre pas dans ses frais tout de suite, il faut un peu plus de temps pour... voilà, c'est ça.
Oui, tout à fait.
Et avec finalement un ticket d'entrée qui est plus important.
Exactement.
Si je peux me permettre de le dire comme
mais
ça.
Mais après, c'est vrai que l'ancien a pris aussi également. Hein,
oui.
Avec le Covid, etc. Donc c'est vrai que l'ancien a pris 20%. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus aller sur de la construction sur mesure et qui décident quand même d'être propriétaires et acheter des biens à rénover. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir quand même une réglementation thermique au niveau de la rénovation d'ici quelques temps avec la partie gaz carbone.
Ça arrive très vite, là. Hein.
Tout à fait. Donc, je dirais, les gens, malheureusement, ne sont pas conscients aujourd'hui que quand ils achètent un bien à rénover, ils seront obligés de respecter des cases d'ici 2 à 3 ans pour avoir un gain énergétique et un niveau de DPE qui sera aux alentours de 60 à 80 kWh au mètre carré par an, où aujourd'hui on est à 150 kWh au mètre carré par an au niveau rénovation.
C'est important parce qu'on a effectivement votre activité est sur la construction, donc sur le neuf, mais sur l'ancien, il y a effectivement une alerte à donner à nos auditeurs, c'est qu'il faut avoir conscience, si en tout cas c'est un achat pour de l'investissement, il faut avoir conscience qu'avec cette réglementation, il faudra en passer par des travaux
oui.
pour que les logements soient aux normes, pour pouvoir être loués. Or, dans notre territoire, comme dans beaucoup de territoires en France, on a dans l'ancien un certain nombre de logements qui sont des passoires thermiques. Et effectivement, les personnes qui achètent aujourd'hui n'ont pas forcément en
des
tête...
moyens.
Qu'il va y avoir ce surcoût et donc qu'il faut anticiper parce que quand vous achetez pour louer, si au bout d'un an ou deux ans vous ne pouvez plus louer parce que votre logement n'est pas aux normes, c'est quand même un petit peu embêtant.
Ça va être compliqué puisque je ne sais même pas s'ils pourront revendre leurs biens. S'ils arrivent à revendre leurs biens ou s'ils n'arrivent pas, je dirais, à avoir les moyens de rénover en termes énergétiques leur maison en location, je pense qu'il y aura une taxe, ce qu'on appelle la taxe carbone, qui va arriver. Donc ils vont être taxés tous les ans puisque la maison ne sera pas aux normes.
Oui, alors en fait, encore faut-il qu'ils puissent louer s'il y a de nouveaux locataires qui arrivent. C'est surtout ça.
Oui.
Et donc à la revente, ben, c'est la loi du marché, hein.
C'est ça.
Ça veut dire que les logements les plus énergivores vont avoir une pénalité sur leur prix, forcément.
Tout à fait. Et puis après, c'est un calcul aussi, puisque quelqu'un qui investit dans l'immobilier cherche aussi une rentabilité. Et malheureusement, il ne pourra plus louer sa maison dans la même rentabilité que l'époque.
Forcément.
Puisque sa maison sera considérée, comme vous le dites si bien, une passoire.
Oui, c'est ça. Alors, sur ces mots pas si optimistes que ça, finalement, mais qui sont importants à signaler, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience des risques. aussi pour pouvoir s'adapter. Je vous propose que nous marquions notre coupure musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi, Jérôme, pour cette deuxième coupure ?
Là, j'ai choisi Aretha Franklin, Respect.
Ah, ben voilà. On se retrouve dans quelques instants.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour avec Jérôme Retter de la société Home Concept Habitat pour cette troisième partie maintenant de l'émission. C'est une partie qui est un peu plus personnelle pour vous. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus précisément votre parcours. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez 24 ans d'expérience dans la construction neuve. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez tout petit déjà, ça ?
Quand j'étais petit, je voulais être architecte, puisque j'étais passionné de dessin industriel.
Oui.
Déjà tout gamin. Et donc, finalement, ça a perduré. Alors, je n'ai pas pu devenir architecte, mais j'ai pu quand même réaliser un métier qui me plaît, puisque aujourd'hui, je réalise des plans sur mesure, et oui. Réellement sur mesure, hein, et pas des plans adaptés comme certains constructeurs peuvent proposer. Là, c'est vraiment la demande du client, donc c'est vraiment ma passion première, c'est le dessin.
Donc, on a coutume de dire que le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Mais on se rend bien compte que finalement, par quelques chemins de traverse, on arrive à faire ce qu'on avait envie de faire. Ces chemins de traverse, du coup, qui vous ont permis d'arriver aujourd'hui à faire le métier que vous faites, alors que vous vouliez être architecte quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous a permis justement de revenir à ça ?
De revenir à ça, c'est, je dirais, en suivant une formation à l'époque, alors pas spécialement dans ce domaine. domaine-là, mais plutôt dans le métier de la vente, qui m'a permis en fait de vraiment conseiller les gens, puisque c'est ce que j'adore faire, l'honnêteté, puisque ça c'est important. Et ça m'a permis de rencontrer Monsieur Page à l'époque, qui était directeur commercial chez Pavillon Bain. Et qui m'a fait passer un entretien et qui m'a mis une feuille blanche en me disant, voilà, je suis client, peut-être un futur client ou pas, dessine-moi ma maison et je vais dessiner. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé le métier.
D'accord.
Et finalement, je ne l'ai plus jamais quitté.
D'accord. Donc, si c'était à refaire, vous feriez quoi différemment ?
Rien.
Rien.
Non. La même chose.
Ah, mais c'est bien de faire ce constat-là. On ne fait rien différemment.
Non.
Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait rêver pour l'avenir de votre structure et de votre métier ?
C'est vraiment d'apporter de la sécurité à mes clients. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi, d'être transparent. Puisque aujourd'hui, c'est ce que je pense recherchent principalement les particuliers. Hein. C'est pour ça que moi, dans ma fonction, vu que je suis complètement indépendant des entreprises et je travaille réellement pour le compte de mon client, donc ça permet d'avoir une transparence réelle à 100%. Ils ont les clés de leur maison, ils peuvent y aller quand ils veulent, ils peuvent m'appeler sur mon portable puisqu'ils ont ils ont un numéro de portable et pas un numéro d'agence. Donc après toutes ces petites choses, ça permet d'avoir, je dirais, une pleine confiance, une sécurité et moi une réelle satisfaction puisque le but c'est d'avoir un maximum je dirais d'avis de notoriété dans ce domaine.
Vous parliez justement des avis, je suppose qu'on parle des avis Google.
Oui, tout à fait, c'est important.
Voilà. Voilà, c'est important dans beaucoup maintenant de secteurs d'activité. Utilise les avis Google aussi pour se faire recommander, pour être référencé. On l'imaginait peut-être un peu moins dans le bâtiment. En tout cas dans la construction de façon plus générale. Et en fait, vous dites que c'est important. C'est quoi la plus-value du coup ?
La plus-value, c'est... aujourd'hui, les réseaux sociaux sont importants dans tous les domaines d'activité, puisque ça nous permet d'avoir, si vous voulez, une référence qu'on n'avait pas à l'époque. À l'époque, les gens faisaient beaucoup confiance, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et maintenant, on s'est rendu compte que certaines personnes ont été déçues de certains de leurs achats. Et donc, ils ont les gens aujourd'hui ont besoin d'avoir des repères. Et les réseaux sociaux nous apportent ces repères, positifs ou négatifs, suivant les entreprises.
Oui.
Donc moi personnellement, ça m'apporte une satisfaction quand un client émet un avis sur Google. Puisque je dirais un projet de construction, c'est plus d'un an. Donc c'est ce que je dis à mes clients, on est une vraie famille pendant un an. Donc c'est toujours appréciable d'avoir un très très bon avis. Mais aujourd'hui, on en a besoin pour ne plus se tromper sur des achats de vie ou autre.
D'accord. Donc un moyen de vérifier si l'impression est bonne finalement, c'est ça.
Tout à fait.
Et donc utile pour tous les métiers finalement.
Oui.
D'accord. Vous parliez du fait que les clients, pendant plus d'un an, où vous les accompagnez, c'est un peu une famille, ils ont votre portable pour vous joindre. Comment ça se passe à la maison, du coup ? Tout le monde se retrouve le dimanche avec les clients qui viennent manger ou on arrive à avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle ?
Non, il faut quand même avoir un équilibre. Hein. Bon, moi, j'ai une femme et deux grands-enfants. Hein. Lola qui a 17 ans et Nathan qui a 14 ans maintenant.
D'accord, on les salue du coup.
Le temps passe vite. Et Et ce qui est bien dans mon activité, c'est j'ai quand même de la souplesse. Je peux emmener mon garçon au collège. Je peux, si ma fille a besoin entre deux rendez-vous, je peux très bien aller la chercher au lycée à Nevers. Donc c'est ce qui fait partie aussi de la souplesse aussi de mon activité. Et le dimanche est consacré à ma famille et pas à mes clients.
D'accord. Donc on peut vous joindre, mais on évite le dimanche quand même. Sauf urgence absolue, mais voilà.
Du lundi au samedi.
Mais du lundi au samedi, c'est déjà pas mal. Hein.
C'est déjà pas mal, ça prend beaucoup de temps, surtout que je m'investis énormément pour eux. Donc le dimanche est réellement consacré à ma petite famille, aux promenades, et puis bientôt les barbecues.
Et bientôt les barbecues. Qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à vos enfants qui sont des grands, qui sont en période où ils vont commencer à se projeter sur leur avenir? Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre comme envie, comme valeur?
Alors le respect, hein, puisque pour moi c'est ce qu'il y a de plus important, le respect d'autrui, hein, ça fait partie de l'éducation. Après, comme tout parent, on oblige les enfants à bien travailler à l'école, puisque ça va être de plus en plus compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, avec les téléphones, les PlayStation, les réseaux sociaux, c'est pas spécialement évident, mais aujourd'hui, ils n'en ont pas spécialement conscience. On leur donne des alertes avec mon épouse, hein, quand même. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils aient un équilibre et qu'ils aient surtout une valeur des choses.
Valeur des choses.
Puisqu'aujourd'hui, tout coûte cher. Donc, quand Thierry me demande un t-shirt ou un jean de telle marque, ça a un coût.
On a tous les mêmes.
Et donc, je les oblige, si vous voulez, à travailler un petit peu à la maison pour qu'ils puissent avoir aussi leur argent de poche et qu'ils puissent eux aussi un petit peu assumer leurs envies personnelles.
Et donc, la valeur travail et puis une meilleure conscience du coût de la vie et du fait qu'on n'a rien sans rien. Quoi.
Tout à fait.
En termes de métier, qu'est-ce que vous leur conseilleriez ou est-ce que vous leur conseillez ou pas d'ailleurs?
En termes de métier, ce que je pourrais leur conseiller, c'est mon métier est un beau métier. Après, il faut quand même avoir beaucoup de rigueur pour faire ce métier-là, mais surtout qu'ils aient un maximum de choix, qu'ils puissent bosser à l'école pour choisir
un métier. D'accord.
Puisque s'ils ne travaillent pas suffisamment, ça va être compliqué de choisir telle et telle formation.
D'accord.
Donc aujourd'hui, ça c'est important, puisque sur la place des étudiants, il y a beaucoup de monde, c'est de plus en plus difficile, surtout en France, au niveau des cursus scolaires. Donc surtout qu'ils se donnent la possibilité de réaliser un métier qu'ils aiment.
Un métier que l'on aime, ça c'est important. Effectivement, exercer avec passion et avec sérieux, si j'ai bien compris ce qui vous tenait à cœur. Quel est votre souhait pour votre entreprise dans 5 ans, 10 ans?
Les projets, c'est vraiment de stabiliser l'entreprise et surtout satisfaire un maximum les clients. C'est pour ça que mon objectif est de toute façon de rester à taille humaine et de rester sur 6 à 8 projets par an maximum. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que si on monte en volume, on se retrouve avec des clients insatisfaits et après, on devient comme certains constructeurs, malheureusement.
Donc, rester dans cette proximité et cette taille humaine, hein, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Merci en tout cas d'avoir été notre invité pour ce rendez-vous de l'économie du territoire. Et je rappelle donc, Jérôme Rotter, que vous étiez notre invité de ce jour et que vous dirigez Home Concept Habitat à Cône-sur-Loire. À très bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h.